Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à une autre émission de État de splendeur en ce 5 août 2010. Et puis on a toute une émission pour vous, bien intéressante. Et puis c'est après une petite pause qu'on revient de plus belle avec des émissions encore plus substantielles, si on veut. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs sujets et puis on va commencer avec un sujet un peu particulier en cette soirée d'été, la nordicité. À travers un livre qui vient de sortir aux éditions XYZ. Ensuite, on va faire encore un retour à la chronique récurrente de la vie monastique au Québec. Et puis, ensuite, on passe à un autre sujet complètement différent, quoique un peu relié, le scandale des fraises. Le scandale des fraises du Québec. Bon, scandale ou un épisode un peu moins drôle des fraises, si on veut. Et finalement, à la grande demande générale, le retour de la chronique fantomatique avec l'histoire d'un autre village défunt de notre histoire. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Et puis, nous allons donc amorcer le tout avec une pièce qui va donner le ton à l'émission d'aujourd'hui. Une pièce quand même assez connue, sortie aux alentours de 2004. Et c'est Chloé Sainte-Marie. Avec Michapan Nitasinan.
Quatsikok, Mazaklan, Manitou, Megantik. Manouan, Ivoujivik, Maskouche, Maniwaki. Saskatchewan, Shipshop, Matawan, Windigo. Kamouraska, Témiscamingue, Copan, Chibougamau.
Thank you.
que notre terre était grande.
C'était Chloé Sainte-Marie avec sa fameuse pièce « Michapan Nitassinan ». Le Nitassinan étant le nom de la terre ancestrale des Innus. Et puis, cette chanson-là, quand même assez... me donne... je vous me prendrai pour un grand émotif, mais ça a tendance à faire verser une larme à l'œil. Et puis, donc, on va commencer avec le premier sujet qui est tout à fait relié à cette chanson. C'est en fait relié à un livre. Le livre traite d'un sujet qui concerne les habitants des régions éloignées du Québec, parce que on le sait, la population est pas mal concentrée dans le sud du Québec, dans quelques villes et villages, et puis la grosse, grosse majorité du territoire est non parcouru ou moins parcouru qu'auparavant, en tout cas. Et puis, il y a un écrivain qui s'appelle Jean Désy, un essayiste sur les modes de vie dans les régions nordiques, qui est un étudiant de Louis Hamelin, qui est l'écrivain qui inventa les théories sur l'autochtonie québécoise et le nomadisme au Québec. Et puis, ce certain Jean Désy a écrit un livre qui s'appelle « Les éditions... » L'Esprit du Nord. Et dans ce livre, il explore qu'est-ce que c'est le fait d'habiter le Québec. En fait, qu'est-ce que habiter la Pologne ou encore la Mongolie? Rien de particulier si on est dans une ville par exemple, dans le sud du Québec, dans la vallée du Saint-Laurent. Mais lorsqu'on habite en région éloignée, on est par conséquent plus en contact avec la nature et donc avec les particularités territoriales. Et donc, un véritable mode de vie adapté au territoire finit par s'exprimer. Et puis, la société québécoise, en tant que jeune société qui commence à se découvrir dans toute son intégralité, comprend maintenant de plus en plus que la québécitude ou le fait d'habiter au Québec est pas mal indissociable de son autochtonie. C'est ce sujet-là qu'explore le livre. Et puis, pour citer le livre et son principe de base, peut-on nier que le monde et les mouvances autochtones font partie du Québec? On ne peut pas, car le pays s'est bâti sur ses fondations. Et nécessairement, il y a une transmission qui s'opère vers les habitants plus récents de ce coin de continent. Et Jean Désy dit particulièrement « J'aime la vie des Indiens et des Inuits. Mon pays est le leur et leur pays est le mien. » Alors, Jean Désy ose pousser un peu plus loin cette conception de l'autochtonie au Québec. En fait, il explore la notion d'identification à ce mode de vie. C'est parce qu'il a goûté, lui, au coucher à la Belle Étoile, et puis il a parcouru les étroits sentiers forestiers qui dévoilent leurs mystères lorsqu'on fait pas juste les visiter, mais lorsqu'on y habite, là, pour une fois. Et puis, ainsi, Jean Désy veut s'affirmer comme étant un autochtone. Pourtant, bien qu'il partage certaines racines autochtones comme bon nombre de Québécois, il n'est pas techniquement autochtone. Donc, il est devant un paradoxe parce que lui aime bien le nomadisme et puis habiter dans ces contrées-là. Mais par contre, il ne peut pas se considérer comme un autochtone puisqu'il n'en est pas un. Mais il fait une comparaison avec la Finlande. Et en Finlande, comme tout le monde sait, il y a les lapons qui existent. Et puis, les lapons, connus plus réellement, leur vrai nom, c'est les Samis. Ils n'ont pas l'équivalent de la loi sur les Indiens qui catégorise les habitants en fonction de leur pourcentage de sang autochtone ou de leur pourcentage de sang Sami dans ce cas-là. Et puis là-bas, on considère Sami ceux qui se considèrent eux-mêmes Sami. Donc, c'est pas tout à fait la même réalité qu'ici. Et puis donc, M. Jean Désy dit que, étant donné qu'il y a une partie de population blanche qui habite dans le Nord, évidemment, il y en a une bonne partie qui reste dans leur village et qui ont un mode de vie sédentaire, mais il y en a d'autres qui partagent cet amour de vivre de la terre et puis des fruits de la forêt, puis de l'environnement du Nord. Et puis, il veut revendiquer le fait d'être autochtone. Là, ça, c'est un peu... ça peut être un peu litigieux, parce que pour un Inuk, par exemple, ou pour un Cri, entendre un tel discours, ça serait un peu... c'est un peu agressant. Ça peut être perçu comme une assimilation, une expropriation culturelle. assez honteuse de notre part. Donc ça serait compréhensible qu'on perçoive ça comme ça. Mais par contre, Monsieur Jean Désy, je ne crois pas qu'il veut s'accaparer de toute la culture autochtone. Il veut juste revendiquer le fait que il est possible pour la population blanche du Québec d'adopter un mode de vie qui est basé sur les principes transmis par les premiers peuples du Québec et puis de l'Amérique du Nord. Et donc, par conséquent, cette notion-là est peut-être ancrée dans la réalité. Mais pour les peuples autochtones, c'est ça, il va y avoir un paradoxe de perception de part et d'autre. Et c'est là que le dialogue devient nécessaire et doit rentrer en jeu. Et puis c'est là que je pense qu'au fur et à mesure que les choses avancent, il commence à avoir de plus en plus de dialogue entre la partie des arrivants européens plus récents et puis des premiers peuples du Québec. De plus en plus, c'est assez encourageant en fait. Et puis, on va sans doute découvrir qui sommes-nous ici et maintenant. Et puis, mais c'est pas à moi de répondre à cette question, par contre, parce qu'il suffit qu'il y ait un réel discours qui se fasse. Alors, peut-être à l'avenir, on va inviter certains invités pour qu'ils amènent leurs pensées sur ce sujet. Et puis, je crois que on est sur la bonne piste. Il y a certain William Komanda, qui est le chef spirituel des peuples algonquiens, et lui fait à chaque année ce qu'il appelle le cercle de toutes les nations, où il invite les représentants de tous les peuples à partager un cercle où il y a des échanges culturels qui se font, et puis donc une transmission entre les premiers peuples et les nouveaux arrivants. Et puis ça favorise une certaine harmonisation entre les modes de vie et tout ça. Et donc, dans un futur reportage, on va parler plus précisément de William Komanda. Mais pour l'instant, je tenais à souligner que c'est une question assez intéressante et importante qui est soulevée par Jean Désy. Car même si on ne le voit pas couramment dans les nouvelles ou partout dans les médias, il existe une partie de la population qui aime adopter ce mode de vie semi-nomade qui est relié à la terre et à la forêt, et puis qui aime respecter cette terre-là. Donc, il y a comme une évolution au niveau de l'identification de la population au Québec. Et puis, sûrement des belles questions qui vont être posées et des encore plus belles réponses. Donc, ce livre, c'est écrit par Jean Désy et le nom du livre, c'est L'Esprit du Nord et c'est paru aux éditions XYZ. On va y aller tout de suite en musique avec une pièce d'un auteur autochtone, Inou, un montagnais ex-membre du groupe Kashtin, Claude McKenzie, celui qui est un peu moins connu. On va écouter Pichimousse avec... c'est une pièce qui est issue de l'album qui s'appelle Pichimousse, apparu en 2004. Et la pièce, c'est Nutaoui.
Ok, nous t'as oui,
Claude McKenzie avec la pièce tirée de l'album Pichimus, Nutawi. Et donc là, on va explorer une autre forme d'habitation du territoire au Québec, et il s'agit de la vie monastique au Québec. C'est un sujet qu'on a déjà exploré auparavant. On a fait un bref survol des monastères principaux au Québec, mais en fait, c'est une chronique récurrente et on va explorer plus en profondeur chacun de ces établissements-là. Et puis, on va finalement explorer pas seulement les monastères catholiques, mais bien toutes formes de monastères qu'on peut trouver. Et on sait qu'il y a aussi des monastères bouddhistes au Québec qui sont d'une mouvance assez particulière et intéressante. Et puis, pour aujourd'hui, on va commencer avec un des monastères les plus connus au Québec, et puis qui ont déjà fait partie de l'histoire intégrale du Québec, là, qui ont vraiment fait un apport assez substantiel. Donc aujourd'hui, on se concentre sur le monastère d'Oka, qui n'est plus connu aujourd'hui sous le pseudonyme du monastère d'Oka. À un temps, ça a déjà été le monastère le plus prolifique du Québec, avec 177 moines autour des années 50. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais c'est quand même un monastère très prolifique, surtout pour sa contribution au patrimoine agroalimentaire. Donc, on dit souvent, l'expression « c'est un travail de moine » pour des besognes perçues comme étant sans fin. Et puis, disons que ces moines-là ont vraiment fait ce travail de moine. Alors, ce monastère n'a pas eu la vie facile, vous allez le voir, c'est en 1881 que le premier bâtiment en bois, le premier monastère a été construit. Et puis ensuite, ça a été relégué, transformé en école agroalimentaire, école d'agriculture d'Oka. Et en 1890, ils ont construit un deuxième monastère. Le deuxième monastère, malheureusement, a été victime d'un feu et a été complètement rasé par les flammes. Par conséquent, en 1902, on a construit un troisième monastère qui a aussi, lui, malheureusement, été ravagé par le feu. On se demande comment ça se fait que le feu s'acharne là-dessus, mais nul ne le sait. Et en 1915, ils ont construit ce qui est connu aujourd'hui sous le terme de l'abbaye d'Oka, l'édifice actuel. Et comme on sait, les moines d'Oka n'habitent plus le monastère d'Oka et c'est depuis 2009 qu'ils sont maintenant à Saint-Jean-de-Mata. Alors, le monastère d'Oka, évidemment, est connu avant tout pour le fromage d'Oka. C'est un fromage qui est né en 1891 à la trappe d'Oka. Et puis, le fromage de l'époque a rien à voir avec, ou peut avoir avec le fromage d'Oka d'aujourd'hui. À l'époque, c'était une tome des plus classiques avec une croûte lavée, semi-ferme, au lait cru. Et puis, c'était affiné selon les règles de la patience. Et puis, il y avait des productions irrégulières parce que c'était vraiment fait à la main, moulé à la main, tout le caillage du lait, tout le processus était fait à la main, et était très peu mécanisé, quoique quelque peu sûrement. Et puis, c'était des productions irrégulières, là, dues à la différence des laits qui sont utilisés, et même à celui qui fabrique le fromage, et ainsi qu'aux saisons. Alors, à chaque tome qu'on avait, c'était comme une nouvelle histoire à découvrir, ce qui pouvait être intéressant. Parce qu'on sait que pendant l'hiver, les vaches mangent de l'ensilage ou du foin sec, donc ça donne un fromage un peu plus ferme, noisetté. Mais en été, au printemps, là, ils se mettent à manger de l'air fraîche, donc ça devient un fromage beaucoup plus aromatique, là. Et puis, on pouvait noter ces fluctuations avec les saisons. Aujourd'hui, avec la standardisation des produits, on ressent moins cette fluctuation-là. C'est un peu dommage, quoique tout à fait compréhensible, parce que pour produire des produits pour les masses, il faut avoir des processus un peu mécanisés. Il y a peu de fromages aujourd'hui qui ont ce caractère fluctuant avec les saisons et avec les fabricants. On peut peut-être trouver un peu la même mouvance dans le fromage qui vient de la région de Québec, le Grondine, et aussi de manière encore plus marquée chez le fromage qui vient de Saint-Athanase d'Iberville, le fromage connu sous le nom du d'Iberville. Ça sera le sujet d'une autre émission, ce fromage-là, parce que cette fromagerie est des plus travaillées, et puis ça mérite une émission à elle tout seule. Donc, à l'époque, une meule rapportée à la maison, ça embaumait vraiment, pas seulement toute la pièce, mais toute la maison au complet. Et puis son goût était, comme en conséquence, assez relevé, mais apprécié, là. C'était très apprécié à l'époque. Et en 1975, ils ont décidé de vendre la marque du fromage Oka à Agropur. Évidemment, la production a été un peu standardisée. Le fromage est un peu moins fort qu'il fut à l'époque. Mais c'est quand même une heureuse histoire parce qu'il est encore en production aujourd'hui. Et puis le Oka, quand même, on peut aller chercher certaines notes qui vont rappeler un peu le fromage d'Oka d'époque, dans le Oka classique, là. Mais le monastère d'Oka n'a pas seulement produit du fromage d'Oka. Il est connu pour beaucoup d'autres productions qui n'existent plus aujourd'hui, malheureusement. Mais une des plus connues, c'est quelque chose qui est très peu soupçonné, c'était qu'il faisait des élevages d'animaux, de poules surtout. Et puis, vers 1920, ils ont inventé la poule Chantecler. Et puis ça a donné une race extrêmement vigoureuse. Et c'était des poules vraiment charnues et puis qui étaient résistantes à nos hivers, là. C'était très facilement élevable au Québec. Et puis aujourd'hui, c'est une race assez difficilement retrouvable, mais c'était un poulet adapté à notre territoire. Et puis ça a même été reconnu internationalement, cette race-là, comme étant une race particulièrement appréciée, productive. Et puis c'était des poules bien vigoureuses et bien élevées. Donc ce patrimoine-là, il faudrait peut-être le noter. La poule Chantecler. Et finalement, la troisième production qui était assez connue, très peu aujourd'hui, c'est le melon brodé d'Oka. Ça a été inventé en 1893 par des pères trappistes qui ont été s'installer à Oka. Et puis, c'est un certain père qui s'appelait le père Athanase. Et puis, il a croisé le melon brodé de Montréal, puisque dans la région de Notre-Dame-de-Grâce, NDG, on faisait un certain melon, c'était le melon de Montréal. Et puis, il a croisé ça avec le melon américain Cucumis melo, connu sous le patronyme populaire de Banana Melon. Et puis, le père Athanase a fait ce croisement-là et ensuite a sélectionné les résultats pour en faire un melon qui est assez hâtif, donc qui est cultivable partout dans le sud du Québec. Là. C'est vraiment facile à faire pousser malgré la rudesse du territoire. Et puis, ça donne comme résultat un melon avec une chair très colorée, très épaisse et surtout très savoureuse. Et puis, c'est connu que les gens qui viennent d'autres pays comme en Europe, au Proche-Orient ou tout ça, ils sont souvent déçus par les fruits qu'on fait pousser ici, puisqu'ils sont, il faut le reconnaître, à part les fruits autochtones comme les bleuets, etc., mais les fruits qui sont produits agriculturellement ici ont souvent moins de saveur que les pays qui en produisent dans les régions un peu plus au sud, ou avec plus de chaleur, ou je ne sais quoi. Ils ont plus de saveur, souvent, ces fruits-là. Mais par contre, le melon, étant donné qu'il était adapté à son terroir, à ses terroirs, il développait des saveurs vraiment surprenantes, et même les Européens, qui sont habitués à des fruits particulièrement savoureux, sont tous unanimes sur le fait que le melon brodé d'Oka avait une saveur incomparable. Ce melon est difficilement trouvable dans les boutiques aujourd'hui, mais il est encore en vie. Il existe des organismes de semences du patrimoine qui conservent ces semences-là pour faire de sorte que la variété reste toujours vivante. Donc, le melon brodé d'Oka existe encore aujourd'hui. Et puis, c'est grâce au père Athanase et aux moines d'Oka, et aussi grâce aux efforts des organismes qui contribuent à sauvegarder ces semis-là pour faire que la variété reste encore aujourd'hui. Parce que toutes les nombreuses variétés différentes de cultivars ont tendance à se réduire dans ces dernières décennies. Et puis, le fait d'en conserver quelques-unes est fort apprécié. Donc, c'était un bref survol des contributions qu'ont pu faire ce monastère. Et puis, c'est assez inestimable qu'on partage ou non leur foi. Là, on ne peut faire autrement que de le reconnaître. Là. Et puis, aujourd'hui, depuis 2009, les moines d'Oka se retrouvent à Saint-Jean-de-Mata. Ils ont construit un monastère qui est très, très, très moderne et qui incorpore même certains principes du développement durable. C'est un bâtiment quasi écologique. Et puis, il subsiste tant bien que mal et la communauté l'a bien accueilli. Et c'est fort agréable. Et aujourd'hui, il subsiste une trentaine de moines à Val-Notre-Dame. My body is bare. c'était la pièce The Maker. The Maker avec. C'est une pièce originale de Daniel Lanois, qui est originaire de Gatineau, un producteur assez connu mondialement pour ses talents d'ingénieur sonore. Et puis, ça a été repris par le fameux chanteur Willie Nelson et puis Emmylou Harris. C'était The Maker. Le prochain sujet, ça traite des fraises du Québec. Et puis, les fraises du Québec, j'en suis assez amateur parce que à l'année longue, on est contraint à manger des fraises importées qui sont, ma foi, pas particulièrement bonnes. Et puis, à chaque année, à l'été, on s'attend vivement à recevoir ces fraises-là. Et puis, traditionnellement, c'était un fruit qui était associé à la Saint-Jean-Baptiste, puisque les fraises étaient prêtes à partir de la Saint-Jean-Baptiste. C'était comme un des premiers fruits qui était prêt. Et puis, c'était des petites fraises qui étaient particulièrement savoureuses, qui sont contrastées avec les gros monstres californiens qui sont disponibles à l'année longue. Et puis, c'est des cultivars qui sont savoureux, qui sont vraiment attendus. Par contre, malheureusement, il y a eu un point tournant en 2002 par rapport à nos fraises. Et puis, à partir de 2003, on a changé nos méthodes par rapport à notre production de fraises. C'est tout à fait compréhensible. C'est dû à la grosse compétition que la Californie nous offre. Évidemment, ces fraises-là poussent beaucoup plus facilement en Californie. Et il y a aussi un problème avec la réglementation. C'est qu'ici au Québec, le gouvernement a raison de nous interdire d'utiliser comme pesticide le bromure de méthyle. Par contre, en Californie, le bromure de méthyle est autorisé. Et donc, ça baisse les coûts, disons, et ça baisse les pertes de production de fraises. Et donc, ça leur permet, c'est un des facteurs qui leur permet d'offrir leurs fraises à des prix qui sont souvent fort, fort plus bas que nos fraises. En Californie, ils ont un rendement 5 fois supérieur à nos productions de fraises ici. Et puis, la production de fraises au Québec est vraiment, bien que c'est des fraises particulièrement bonnes, c'est une production toute petite comparativement. Là. En Californie, ils vendent pour 1,6 milliard de fraises par année. Et au Québec, on en vend seulement 25,2 millions. Alors, le MAPAC, en association avec les producteurs, a décidé de changer la donne parce qu'il fallait trouver moyen d'augmenter la productivité. Et donc, nos variétés traditionnelles ont comme un petit rendement comparativement. C'est un fruit incomparable, mais avec un profit qui n'est pas vraiment comparable aux fraises californiennes plus de masse, là. Et puis donc, on a regardé en Europe. Et puis en Europe, on cherche aussi à augmenter la productivité par rapport aux fraises, par rapport à tous les légumes, évidemment. Mais on se concentre sur les fraises. Et puis, on a regardé du côté de la Hollande, qui est le numéro un en producteur de légumes au niveau de la qualité. C'est vraiment reconnu comme étant les Rolls-Royce des fruits et légumes, ceux qui proviennent de la Hollande. On a aussi observé les productions et les nouvelles techniques en France et en Italie. Et puis là, ils cherchent à développer des méthodes de culture différentes. Donc, ils essaient des méthodes comme la culture sous tunnel, qui protège les fraises des intempéries, les cultures en cellules multiples, les cultures suspendues. Et puis, on a commencé à faire des essais à partir de 2003. Sauf que si en Europe, on se concentre sur introduire des nouvelles méthodes de culture, au Québec, on se consacre surtout à introduire des nouvelles variétés. Donc, dès 2004, on s'est concentré sur l'introduction de nouvelles variétés plus productives. Puisque souvent, les bleuets, comme les fraises et les framboises, peuvent se vendre jusqu'à 30% plus cher que leurs consœurs américaines, ce qui est qui peut paraître comme un non-sens. Mais la différence la plus visible entre les fraises du Québec et les fraises californiennes, c'était auparavant la taille et la couleur. La fraise du Québec traditionnelle est totalement ronde en circonférence, et puis elle a comme une pointe conique, généralement, évidemment. C'est pas régulier des fraises, mais c'est grosso modo cette forme-là qu'elles ont. Elles sont assez menues et elles ont aussi une couleur rouge très vive. Les fraises américaines sont des fraises grossies horizontalement, qui sont plus du tout rondes et puis qui poussent en longueur, en largeur en fait, pour donner un fruit obèse, difforme et beaucoup moins juteux que la fraise du Québec et souvent très 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 pâle. donc à la consistance qui n'est pas aussi agréable que les fraises qu'on connaît ici. Jusqu'à maintenant, c'était possible de différencier nos fraises facilement des autres fraises. Mais aujourd'hui, la seule différence, ou presque, là, c'est la fraîcheur, là, parce que nos fraises commencent de plus en plus à ressembler à ces grosses fraises importées. Et puis, effectivement, avec l'implantation des nouvelles techniques, comme les fraises de serre, il y a un gros producteur à Drummondville, là, celui qui produit des roses, Rose Drummond, a sorti des fraises de serre qui fait de sorte que les fraises sont maintenant disponibles dès le mois de mars, ce qui est assez intéressant pour les restaurateurs qui aiment ça avoir un produit originaire du Québec un peu plus tôt qu'à la Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est intéressant. Mais on a sorti aussi de nouvelles variétés. Une heureuse nouvelle tendance avec le fait qu'on a sorti des nouvelles variétés, c'est qu'on a introduit des variétés à fraises remontantes, autrement connues sous le terme des fraises d'automne. Et puis ça, c'est intéressant parce qu'au mois de septembre, on peut retrouver des fraises du Québec qui sont particulièrement savoureuses. Et puis, à l'inverse, aujourd'hui, les fraises du Québec qu'on retrouve partout dans les marchés, ils ne sont plus les originales fraises du Québec qu'on avait avant 2003. Au Québec, on achète à peu près 52% de nos fraises dans les grandes surfaces, comme les Provigo, Loblaws, Maxi, Sobeys et IGA. Et à peu près une trentaine de pourcents de nos fraises sont cueillies à la main par des particuliers ou sont disponibles dans des marchés publics. Et puis, il y a eu un entretien qu'on a eu avec un producteur dans un marché public qui nous a éclairé un peu sur la situation des fraises du Québec. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, après avoir goûté à la production d'un producteur de fraises, on a trouvé que le goût était un peu... n'était pas caractéristique des fraises typiques qu'on connaissait du Québec. Et puis, pourtant, le producteur nous a assuré que c'était bel et bien des fraises du Québec que lui avait produit lui-même. Et donc, on y a regoûté, et puis on est revenu, on a persisté pour dire que c'était pas des fraises du Québec. C'est impossible, c'est pas du tout la même forme, ça n'a pas le même goût, pas la même couleur, pas la même texture. Et donc, après beaucoup de tergiversations, le producteur nous a avoué que, en fait, c'est pas des variétés commerciales étrangères qui sont utilisées. Ce sont des fraises du Québec, mais qu'on a croisées avec des nouveaux cultivars, souvent américains, italiens, français, hollandais. Ainsi, on peut en toute légalité affirmer que c'est des fraises du Québec. Mais le résultat, c'est que c'est des fraises du Québec croisées avec d'une nouvelle variété. Donc le résultat, c'est qu'il reste peu de différence entre la fraise du Québec et la fraise californienne. Bon, avec ça, doit-on blâmer le MAPAC ou blâmer les producteurs qui essayent de développer des nouvelles méthodes? Non, absolument pas, parce que les producteurs, comme le MAPAC qui essaie de veiller à la santé économique de la production agricole et donc des familles des producteurs, ils étaient un peu au pied du mur, donc il faut trouver, c'est compréhensible qu'il faut rentabiliser. Mais le seul hic là-dedans, c'est que les fraises traditionnelles doivent rester disponibles, ne serait-ce que en production marginale, mais quitte à ce qu'elles se vendent un peu plus cher. En tout cas, moi, personnellement, je serais prêt à payer beaucoup plus cher pour avoir les fraises que je recherche réellement. Je préfère avoir des vraies fraises et payer plus cher. Mais où les trouver? Parce que même au marché public, il demeure assez difficile d'en trouver. Alors, une réponse qui est souvent fiable, c'est la production biologique. Qui, évidemment, la production biologique ne va jamais remplacer la production de masse, là, parce que c'est vraiment nécessaire de produire des gros volumes pour nourrir les masses, sinon on ne pourrait jamais nourrir tout le monde. Mais que la production biologique apporte un complément, c'est toujours intéressant, voire nécessaire. Là, il faut faire attention, il faut que ça soit de la production biologique locale, évidemment, parce que les Californiens, eux, c'est un des plus gros producteurs du biologique dans le monde. Mais c'est souvent à grosse échelle et puis évidemment, ça ne vient pas de tout près. Donc, le transport fait de sorte que ce n'est plus vraiment écologiquement viable ou ça n'a pas tout à fait les mêmes avantages. Et de toute façon, ce qu'on recherche, ce n'est pas des fraises biologiques californiennes, mais bien les fraises traditionnelles du Québec. Alors, si dans un marché public, c'est rendu difficile de le trouver, c'est quand même possible si on s'oriente vers les productions biologiques locales. Et justement, je tenais à mentionner qu'en fin de semaine, cette fin de semaine du 6, 7 et 8, et ça se termine le 9. Il y a la fête éco-bio-paysanne à Montréal. Et puis là-bas, on va pouvoir retrouver toutes sortes de producteurs, d'anciens cultivars, de production traditionnelle à petite échelle, et donc de légumes des plus savoureux et remplis de vitalité. Et puis ça se déroule à la TAHU à Montréal. Ça, c'est le bâtiment qui était dédié aux arts du cirque et qui maintenant fait toutes sortes de différents événements. Et si vous voulez vous y rendre, c'est directement en fin de semaine, c'est au 2345 rue Jarry Est, à l'angle des rues des rues Jarry et d'Iberville. Donc, je vous souhaite d'y aller. Et puis, évidemment, c'est pas la seule place où on peut retrouver des fraises traditionnelles, mais je pense qu'il va falloir l'exiger. Mais en contrepartie, il faut être prêt à payer un peu plus cher quand on veut des fraises de qualité. Alors sur ce, on va écouter un classique qui parle justement de la production agroalimentaire, mais remixé par un groupe qui s'appelle M4M.
Et puis, je prends un oignon dans notre tas, un de moins, je l'ajoute au tas de grand-mère, un de plus.
Ah! Ça a l'air bon.
Ah, juste aller voir, ça me donne la faim. Mmh. Ah, miam, 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 les bons gros légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger.
Des gros légumes pour tout le monde, des navets, puis des litus, des oignons, puis des concombres, des pistoles, des choux-fleurs.
C'était donc le grand classique, la chanson des légumes, mais avec le M4M Techno Club Remix 2009. Donc j'espère que vous avez aimé, et puis c'est une très bonne chanson pour danser jusqu'aux petites heures du matin. Sur ce, on va poursuivre avec la dernière partie de l'émission, et puis cette dernière partie est consacrée à la chronique fantomatique. La chronique fantomatique est là où on explore des items insoupçonnés du patrimoine ou de l'histoire du Québec qui sont aujourd'hui défunts. Alors, aujourd'hui, on explore une histoire qui est en continuité avec l'histoire du village de Gagnon qui a été explorée la dernière fois et l'histoire de Schefferville. Non loin de Saint-Michel-des-Saints, dans la Matawinie qui est une sous-région de Lanaudière, au nord, c'est à cheval un peu entre la Mauricie, Lanaudière et les Hautes-Laurentides, et puis on retrouve l'immense réservoir du lac Taureau. Donc en 1904, il y a un village paroissial qui fut fondé sur les lieux qui avaient été défrichés autrefois par leurs premiers colons. Le nom du premier colon à avoir défriché ces terres-là, c'est Alexandre Belle-Rose. Il mérite bien qu'on le mentionne. Et ainsi naquit Saint-Ignace du Lac. C'est un village qui était en bonne et due forme, qui avait une bonne population, qui comprenait une boulangerie, un aqueduc, des magasins généraux, une beurrerie, une fromagerie, un aqueduc, un système d'aqueduc, une boucherie, plusieurs écoles et même une distillerie. Évidemment, une distillerie clandestine, parce que je pense que c'était à l'époque de la prohibition. Et puis, il y avait 471 habitants à cette époque. Et puis, c'était un village fort prospère, d'une prospérité quand même assez moyenne, comparable aux villages environnants. Et puis, la dynamique de cette région fait de sorte qu'il y a une hydroélectricité qui est produite non loin, sur le fleuve Saint-Maurice. Et puis, ce fleuve Saint-Maurice-là, évidemment, son débit fluctue en fonction des saisons, des crues et tout. Donc, on a décidé, pour assurer un apport stable hydrique au fleuve, c'est la Shawinigan Water and Power Company qui a décidé d'aménager un réservoir, ce qui était quand même nécessaire là, pour faire une production hydroélectrique stable. Et donc, on a décidé de construire un gigantesque barrage aux environs du village de Saint-Ignace-du-Lac. Et en 3 ans, on a construit un barrage de 732 mètres, ce qui est quand même assez colossal pour l'époque et pour les moyens de l'époque. Et donc, une fois que ça a été fait, on a annoncé à la population qu'on allait évacuer le village. Donc, la population a été expropriée. Évidemment, on peut s'imaginer le grand dame de la population qui a quand même vécu là pendant au moins une génération, qui a réalisé qu'il fallait qu'elle décampe, et puis paraît-il que c'était un village assez coquet. Il subsiste quelques photos, et surtout des croquis de ce village, parce qu'il n'a pas vécu assez longtemps pour qu'il puisse être vraiment croqué sur le vif en photo. Mais c'était une période triste pour la population et puis elle a dû quitter les lieux. Et au printemps 1931, on a décidé de fermer le barrage pour la première fois. Et puis les eaux ont tranquillement monté. Il y a eu des témoins de ça d'ailleurs. Alors ça a fait comme une inondation normale. Les sous-sols ont été inondés. Et puis tranquillement, certaines routes ont été inondées. Et puis le niveau d'eau a continué à monter. Mais en fait, c'était supposé de monter puisque c'était prévu qu'on fasse un réservoir qui est aujourd'hui le réservoir du lac Taureau. Alors finalement, la surface de l'eau a recouvert le village en entier. Et puis aujourd'hui, il n'y a personne qui pourrait soupçonner la présence autrefois d'un village entier là où se trouve l'immense réservoir du lac Taureau. Mais c'est un village, c'est un peu particulier comme dynamique parce que c'est un village colonial qui aujourd'hui est confiné au royaume de Neptune. Je pense que Neptune, c'est seulement dans la mer. Il y a peut-être un autre terme qu'on peut utiliser pour les plans d'eau douce. Mais c'est complètement oublié. Saint-Ignace-du-Lac est défunt et maintenant est un fantôme. Mais pourtant, il existe une route qui est quand même excessivement populaire chez certains. C'est une route qui est transmise parmi les communautés amateurs de plongée sous-marine. Donc, le village est visité en toute saison, même l'hiver, là, par des cohortes d'hommes grenouilles qui viennent des quatre coins de l'Amérique du Nord pour visiter ces ruines submergées. Il paraît que c'est assez spectaculaire. Il y a peu d'images qui en sont pourtant aujourd'hui disponibles. Il y a quelques reportages qui ont été faits sur ce sujet, qui sont fort intéressants d'ailleurs. On peut en observer d'ailleurs sur le site deshistoiresoubliées.com. Et puis, maintenant, il est quand même réconfortant de réaliser que le spectre de ce fantôme est encore visible pour ceux et celles qui osent plonger la tête dans ces eaux. Alors, j'espère qu'on va pouvoir en produire d'autres images et puis éventuellement, État de Splendeur se rendra sur les lieux pour faire un reportage, bien qu'une caméra sous-marine soit sans doute nécessaire. Alors voilà, c'était l'émission de État de Splendeur pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. C'était l'émission du 5 août 2010. Et puis la semaine prochaine, l'émission va être préparée avec des nouveaux sujets et puis qui vont piquer la curiosité autant que ceux d'aujourd'hui, je le souhaite. L'heure et la date de la diffusion vont être disponibles cette semaine sur le blog de État de Splendeur au www.etatdesplendeur.com. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir écouté et je vous souhaite une bonne semaine. Sur ce, on se quitte avec une pièce traditionnelle qui parle de choses justement qui peuvent rouiller là, quand ils sont... quand ils sont exposés à l'eau. C'est la bottine souriante avec le fameux Zigedon Saint-Saëns.
M'en va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon zinzon.
M'en va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon zinzon.
La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la zigazon zinzon.
Fille en haut, fille en bas, fille, 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 femme, 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 femme aussi, puis la bottine, zin, zin, le rigolet, ha, ha.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la zigazon zinzon.
La fontaine est profonde, je me suis coulé à fort, la zigazon zinzon.
Paris cité lui passe, trois cavaliers barons, la zigazon zinzon.
Fille en haut, fille en bas, fille, 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 femme, 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 femme aussi, fille la bottine, tin, tin, le rigolet, ha, ha.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
Paris cité lui passe, trois cavaliers barons, la zigazon zinzon.
Paris cité lui passe, trois cavaliers barons, la zigazon zinzon.
Que me donneriez-vous belle, si vous tirez du fond, la zigazon zinzon.
Fille en haut, fille en bas, fille, 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 femme, 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 femme aussi, fille la bottine, tin, tin, le rigolet, ha, ha.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
Que me donneriez-vous belle, si vous tirez du fond, la zigazon zinzon.
Que me donneriez-vous belle, si vous tirez du fond, la zigazon zinzon.
Tirez, tirez, dit-elle, après ça nous verrons, la zigazon zinzon.
Fille en haut, fille en bas, fille, 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 femme, 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 femme aussi, fille la bottine, zin, zin, le rigolet, ha, ha.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
Tirez, tirez,
tiré-dit-elle, après ça nous verrons la ziguezon, zinzon.
Tiré-tiré-dit-elle, après ça nous verrons la ziguezon, zinzon.
Quand la belle fut à terre, je sauve à la maison la ziguezon, zinzon.
Fille en haut, fille en bas, fille, 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 femme, 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 femme aussi, fille là-bas, tin, 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 rigolait, ha, ha.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
Quand la belle fut à terre, se sauve à la maison, la ziguezon, zinzon.
Quand la belle fut à terre, se sauve à la maison, la ziguezon, zinzon.
S'assoit à la fenêtre, compose une chanson, la ziguezon, zinzon.
Fille en haut, fille en bas, fille, 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 femme, 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 femme aussi, fille la bottine, zin, zin, rigolait, ha, ha.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
S'assoit à la fenêtre, compose une chanson, la ziguezon, zinzon.
S'assoit à la fenêtre, compose une chanson, la ziguezon, zinzon.
Mon petit cœur en gare n'est pas pour un baron, la ziguezon, zinzon.
Fille en haut, fille en bas, fille, 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 femme, 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 femme aussi, fille la bottine, zin, zin, rigolait, ha, ha.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
Mon petit cœur en gave n'est pas pour un baron, la ziguezon, zinzon.
Mon petit cœur en gave n'est pas pour un baron, la ziguezon, zinzon.
Mais pour un homme de guerre qui a du poil au menton, la ziguezon, zinzon.
Fille en haut, fille en bas, fille, 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 femme, 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 femme aussi, fille la bottine, tin, tin, rigolait, ha, ha.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
Puis son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.
Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, gaiement.